Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Aujourd'hui, Franck Ferrand a choisi de rouvrir un dossier plein de mystères, comme il les aime. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce dossier, c'est celui de la mort dans la nuit de la Saint-Sylvestre 1882 d'un des pères fondateurs de la Troisième République, Léon Gambetta. Ce Gambetta dont tant de rues, tant d'avenues et de places portent le nom à travers toute la France.
La version officielle veut que Gambetta ait été victime des suites d'un coup de feu qu'il aurait tiré lui-même par accident. Mais on sait bien que vous croyez difficilement aux versions officielles.
Ben, ça dépend, Julia, mais il arrive que les versions officielles soient satisfaisantes après tout. Mais là, vous allez voir que dans le cas précis, ce n'est pas vraiment le cas.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En cette fin d'année 1882, la plupart des journaux font leur une sur l'état de santé de Léon Gambetta. Les nouvelles de Monsieur Gambetta sont mauvaises, peut-on lire jour après jour pendant tout le mois de décembre, notamment dans la presse républicaine. D'où viennent-elles ces nouvelles? Évidemment du domaine de Jardy, à Ville d'Avray, qui a été autrefois la propriété de Balzac et où réside, depuis qu'il a quitté la présidence du Conseil, un an plus tôt à peine, celui qu'on peut considérer comme le véritable fondateur de la Troisième République. En ce 29 décembre, les médecins et chirurgiens se pressent autour du lit de Gambetta. Dans la petite chambre toute simple du premier étage, ils sont 7 autour de son lit et parlent d'inflammation intestinale. Le malade a la bouche sèche, la peau froide, il subit des nausées, son pouls s'accélère, sa température diminue et le 30, on se demande s'il va survivre. Et puis soudain, voilà que ça va mieux. Le bulletin de santé qui paraît dans l'après-midi est même carrément encourageant. L'état inflammatoire local est en voie de résolution, l'état général est satisfaisant, lit-on. Il faut toujours se méfier, vous savez, de ces derniers sursauts. Gambetta est un latin, c'est un méridional. Il est assez superstitieux, au fond. Il croit aux années fastes et néfastes. Le matin du 31 décembre, il dit à son vieil ami Fiesal, qui était penché à son chevet, il lui a dit « C'est aujourd'hui le dernier jour de l'année, cette année qui m'a été si funeste. » Gambetta pense tout simplement à la chute de son gouvernement au tout début de cette année 82. « Puisse la suivante, dit-il, l'être moins. » Il se raccroche à cette idée, vivement l'année 1883. Est-ce que le grand homme est inconscient de son état? Est-ce que dans un accès de pudeur, il cherche à donner le change? Est-ce que tout simplement il essaie de se raccrocher à cette lueur d'espoir? En tout cas, il est convaincu que s'il passe ce cap de l'année nouvelle, eh bien il sera sauvé. Il retombe vite dans un état de somnolence, assez alarmant. Les médecins de leur côté n'ont plus d'espoir. Son entourage n'en a pas davantage. Étienne, qui est député de rang, qui est secrétaire de la Chambre des députés, se veut tout de même optimiste. Fiesal le conduit vers le palier. « Mais vous ne voyez donc pas qu'il est perdu ?» lui dit-il. Son interlocuteur est tellement secoué qu'il perd un instant connaissance et qu'il s'écroule sur le parquet. Évidemment, ça fait beaucoup de bruit, ça réveille Gambetta dans la chambre à côté. « Quoi, qu'y a-t-il » dit-il. Fiesal rentre hâtivement dans la chambre. « Ce n'est rien, c'est Étienne qui vient de glisser sur ton sacré parquet et qui s'est étalé les 4 fers en l'air. Il s'est fait mal ? Non, non, allez, dors, va. » Il fait déjà nuit et le mourant n'est plus très loin du nouvel an. De temps en temps, Gambetta ouvre un œil. « Pas encore minuit ?» Étienne, qui s'est remis de ses émotions, lui répond « Il est 11h, monsieur le Président. Dans une heure, nous serons en 1883. » Dans la chambre, la tension est extrême. Mais à un degré moindre, elle l'est, on peut le dire, dans tout Ville d'Avray, et même à Paris. Et dans la France entière, le président Grévy fait demander souvent des nouvelles, le prince de Galles aussi et même le prince Orloff. Parce que s'il y a une chose à bien réaliser, c'est que l'homme qui en ce moment dans son domaine de jardin lutte contre la mort est un personnage considérable. Il était encore un an plus tôt président du Conseil ministre des Affaires étrangères. On peut dire que la vie publique de Gambetta l'a épuisé avant l'heure. À 43 ans, il en paraît plus de 60. Il s'est retiré dans sa maison de jardin, je vous ai dit, à Ville-d'Avray en janvier 1882, juste après avoir quitté le pouvoir. Il ne s'est pas retiré seul. Il est avec sa maîtresse, sa compagne, devrais-je dire, la fameuse Léonie Léon. Il faut l'imaginer, Léonie, c'est une très belle femme qui a tout juste 7 mois de moins que lui. Elle a les cheveux très noirs, des yeux magnifiques, le teint mat. Elle a un quart de sang noir, ce qui lui donne une sorte d'intensité de teint. Je vais revenir dans un instant sur leur belle histoire d'amour, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, Gambetta est déjà rongé par l'asthme et par le diabète, au moment même où il se retire à Jardin. Au jardin, devrais-je dire. Sa vie là-bas est assez sombre. Il a été récemment ridiculisé dans un duel au pistolet. Vous savez que c'est l'époque où on règle les affaires d'honneur sur le pré le matin. Un duel, il a décidé de s'exercer au revolver. Alors il a installé une cible au fond du jardin. Il s'exerce à tirer sur cette cible depuis la bibliothèque. On a donc l'habitude d'entendre des détonations dans la maison et dans le domaine. Nous sommes le dimanche 27 novembre 1882, 27 novembre, cette date fatidique, celle où tout s'est noué. Le matin, Gambetta a reçu une visite, la visite d'un général qui s'est présenté vers 10 heures. Il l'a raccompagné à la grille. Le général a glissé, s'est rattrapé. Il a glissé sur quoi ? Sur une déjection canine. Gambetta s'excuse. Il raccompagne son hôte jusqu'à son fiacre et il rentre furieux à la maison. Il appelle son valet de chambre qui s'appelle Paul Violette et il lui reproche de n'avoir pas attaché la chienne. Le valet répond, le ton monte. Gambetta congédie Violette et voilà une histoire de crotte de chien qui va avoir des conséquences extraordinaires parce que quelques minutes plus tard, un coup de feu retentit, seulement cette fois il ne retentit pas dans la bibliothèque comme d'habitude mais au premier étage, dans la chambre. Et au moment de la détonation, il y a 3 domestiques dans la maison. Il y a François, qui est un ancien soldat de l'armée de la Loire, à l'époque où Gambetta était l'espoir de la résistance face à l'invasion prussienne. Il y a Louis, le cocher, et puis il y a Sidonie, la cuisinière, auquel s'ajoute donc Paul, ce valet congédié, qui lui accourt du second, tandis que les autres montent jusqu'au premier étage. Et là, sur le palier, ils entendent Léonie, Léon, donc la compagne de Gambetta, s'écrier « Mon Dieu, je l'ai tué !» Ils entrent dans la chambre et ils découvrent leur maître qui est seulement blessé à la main droite. « Ah, je ne sais pas comment ça s'est fait, » dit Gambetta. « Claudin, l'armurier, m'a envoyé 2 revolvers, j'ai voulu les essayer. J'ai voulu d'abord décharger celui-ci, mais dès la sortie de la première cartouche, en fait il s'agissait de balles, l'arme s'est enrayée. J'ai voulu la remettre en état, j'ai été maladroit, le coup est parti. » Voilà la thèse officielle, établie par Gambetta lui-même. D'ailleurs, dans la foulée, il dicte à Léonie le communiqué suivant, destiné à son propre journal, La République française. « Monsieur Gambetta, en maniant hier matin un revolver, s'est légèrement blessé à la main. La balle n'a fait que traverser les chairs et la blessure ne présente aucune gravité. » Voilà donc pour la version officielle. Seulement très vite, il va paraître étonnant à tout le monde que Gambetta ait manipulé des armes chargées dans sa chambre en présence de sa compagne. Très vite, une autre hypothèse va se répandre. C'est Léonie Bellon, notoirement dépressive et présentant des tendances hystériques, qui aurait brandi l'arme et c'est en voulant la désarmer que Gambetta aurait reçu lui-même le coup de feu. Question, pourquoi Léonie aurait-elle brandi cette arme ? Eh bien, avant de tenter de répondre à cette question, il me paraît important de revenir sur la belle histoire de Léon et Léonie. Entendons-nous bien, dans la mesure où la blessure par balle de Léon Gambetta, blessure à la main droite, n'a pas été mortelle, on serait en droit d'estimer que la responsabilité dans son accident est presque secondaire, mais c'est quand même très important de comprendre ce qui s'est réellement passé. Léon Gambetta a vécu avec cette femme une histoire tout à fait extraordinaire, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission, mais il avait pour elle un amour qui pouvait le conduire à la protéger en toutes circonstances. Et c'est probablement ce qu'il l'a fait. Si la blessure par balle n'a pas entraîné directement la mort du grand homme, vous allez voir qu'elle a bel et bien généré toute cette descente, toute cette crise qui va finalement aboutir à son décès. Son médecin, c'est le jeune et brillant Lanlong, fait et refait le pansement. Il a étendu les doigts de Gambetta sur une planchette de bois pour qu'il ne se rétracte pas, vous savez. Il a décidé que le blessé devait s'aliter parce que son état général était trop mauvais pour qu'il continue à vivre normalement. Et en fait, Gambetta va rester pendant près d'une semaine dans cette situation. Il est alité, on voit ses forces qui le quittent peu à peu, et son état se dégrade à tel point qu'on est obligé d'appeler d'autres médecins. Et on va voir bientôt une dizaine de médecins se succéder à son chevet. Et le soir du 9 décembre, Léon Gambetta se met à se plaindre d'une vive douleur dans le flanc droit. Ça, c'est le symptôme évident d'une appendicite. Une appendicite qui aurait pu être favorisée par une trop longue station allongée. Il n'aurait peut-être pas fallu finalement que Gambetta s'alite comme il l'a fait dès le début. Il faut savoir que tout petit déjà, à la suite d'une maladie, Léon Gambetta avait été sujet à un accès de péritonite. 20 ou 30 ans plus tard, on aurait opéré. Mais on est en 1882, les médecins hésitent, et ils hésitent d'autant plus que leur patient, je vous l'ai dit, est loin d'être le premier venu. Ils ont peur de ce qui pourrait se passer au cours d'une opération. Et donc tout ça va dégénérer peu à peu. Le 11 décembre, le pouls de Gambetta est à 80. Ça commence à être un peu beaucoup. Sa langue est blanche. Le 12 et le 13, il va un petit peu mieux. Il boit un bouillon, il avale un œuf, il se lève même. Il n'est pas encore très, très gaillard, mais enfin, il descend faire un tour au jardin. « Comment te sens-tu ?» lui demande constamment Léonie. « Mais pas mal, mignonne, pas mal, » répond-il. Maintenant que le mal est fait, il faudrait à tout le moins que le grand malade garde le lit. Eh bien non, c'est justement le moment que choisissent les médecins pour le tirer du lit. Le 15, il va faire une promenade de 20 minutes dans les allées du jardin. Le 16, il fait un tour en landau. Mais on est à l'époque où les rues sont toutes pavées. Vous imaginez comme il y a des secousses dans le landau. Le soir même, quand il rentre, il a 39,6 de température. Le pouls à 88. Cette fois, l'inflammation se généralise. Et l'on peut dire que cette fois, Léon Gambetta vient d'entrer en agonie. Alors Noël, c'est dans 4 jours, ce qui veut dire qu'il nous reste 4 jours pour jouer et gagner 1000 cadeaux grâce à la hôte de Noël d'Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans cette hôte, Julien ?
Eh bien, nous vous proposons de jouer pour un week-end de remise en forme en demi-pension de 3 jours, de nuit, pour 2 personnes, au grand hôtel 4 étoiles des Flamants Roses. C'est à Canet, en Roussillon. Pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe et le prénom Nicolas par SMS au 739-21, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 39-21, 34 centimes la minute. Bonne chance à vous tous.
La hotte de Noël Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 à la mort étrange de Gambetta.
Alors vous avez bien compris que si ce n'est pas la balle de revolver qu'il a reçue dans la main qui a tué Gambetta, ce sont les suites de cet accident qui l'ont peu à peu mené de vie à trépas. D'où l'intérêt tout de même d'élucider ce qui a pu se passer dans cette chambre ce 27 novembre 1882. D'où l'intérêt de savoir quel rôle la compagne de Gambetta, Léonie Léon, a pu jouer dans ce mystérieux accident. Et là, nous sommes confrontés à 3 hypothèses. La première, c'est l'hypothèse d'une crise de dépit provoquée par le renvoi du valet Paul Violette, qui est, vous savez, l'homme qui n'avait pas tenu la chienne, l'homme à la crotte de chien, si je puis dire. Ce Paul Violette était personnellement attaché à Léonie. Il avait été l'ordonnance de son père, le colonel Léon, et l'on comprend que la jeune femme soit restée très attachée à lui. Il y a eu là, semble-t-il, une violente scène lorsque Gambetta a décidé de le renvoyer. Léonie a reproché à Léon de détester tout ce qui rappelait son passé à elle. Elle aurait saisi un des 2 revolvers qui se trouvaient dans les parages et elle aurait fait le geste de se tuer. Et c'est en voulant la désarmer que le coup serait parti et que donc Gambetta se serait blessé. Voilà la première hypothèse. Deuxième hypothèse, celle de la jalousie. Ce matin du 27 novembre, Léonie aurait surpris son Léon en galante compagnie, en l'occurrence avec Madame de Beaumont, qui n'était autre que la belle-sœur de MacMahon. Elle se serait saisie d'un revolver pour la tuer. Alors, la faiblesse de cette hypothèse, c'est que les domestiques n'ont pas vu Madame de Beaumont, pas plus d'ailleurs qu'ils ont vu aucune autre femme. Mais on a tellement brodé sur cette histoire, on a tellement inventé de possibilités. Je précise que Léonie n'habitait pas à demeure au Jardy, et que sa jalousie avait sans doute quelques raisons parfois de s'échauffer un peu. Alors, pourquoi ce jour-là, précisément, le 27 novembre, aurait-elle été là au mauvais moment ? La rumeur, néanmoins, va se répandre, faire des ravages, et dès le 2 décembre, on peut lire dans l'Intransigeant un article extrêmement acide de Rochefort, vous savez, le grand polémiste Rochefort, qui défend cette hypothèse-là. À mot couvert, néanmoins. Troisième hypothèse, celle soutenue par une autre mauvaise langue, dans une époque, il faut dire, où elle prospère, qu'est Léon Daudet. Rochefort est un homme très à gauche, il trouvait Gambetta trop centriste à son goût, si vous voulez. Daudet, lui, vous le savez, est très à droite, et il trouve Gambetta très à gauche. Bref, selon Léon Daudet, ce dimanche matin, le facteur, à l'époque il y avait une distribution de courriers le dimanche, le facteur aurait apporté à Gambetta une liasse de documents destinés à le dissuader d'épouser sa mignonne, comme il l'appelait. Ces documents auraient prouvé que Léonie avait été un agent des Henkel. Ce sont des gens très proches et très favorables au chancelier allemand, à Bismarck. Léonie n'aurait en vérité approché Gambetta dans un premier temps que dans l'intention de le circonvenir et d'en faire une sorte de moteur de la réconciliation franco-allemande. Il faut que je vous dise qui était ces Henkel. Le comte de Henkel de Donnersmarck était, au moment de la guerre franco-prussienne de 1870, le principal agent des Prussiens en France. Sa femme n'était autre que la célèbre Païva, vous savez, cette courtisane qui tenait salon dans le 9e arrondissement, puis sur les Champs-Élysées. C'est un fait qu'en 1875, on a vu Gambetta fréquenter le salon des Henkel aux Champs-Élysées au bras de Léonie. Or, si l'on en croit toujours Léon Daudet, parmi les documents reçus ce 27 novembre 1882 au Jardy, il y aurait une photo de Léonie dédicacée à la Païva dans ces termes: à Madame la Comtesse de Henkel, puissante et bienfaisante, sa petite esclave qui lui doit tout, elle. Léonie Léon. Et l'autographe serait daté de novembre 1874, c'est-à-dire au moment même où Gambetta s'était laissé entraîner chez les amis de Bismarck. Il y aurait eu, à la suite de cet envoi, quand Gambetta a ouvert son courrier, il serait entré dans une colère terrible, il y aurait eu une explication très orageuse et même tragique entre les deux amants, et à ce moment-là, Léonie aurait fait mine de se suicider, c'est en voulant dévier le canon du revolver de la poitrine de sa mignonne que Gambetta aurait été blessé. Le problème avec cette théorie, c'est que personne n'a jamais retrouvé les fameux documents prétendument parvenus par la poste. À moins que ce ne soit le général Touma qui avait reçu le jour même Gambetta, qui se soit fait le commissionnaire. Ça, on ne le saura jamais. Cette révélation mélodramatique n'est pas très convaincante, pour tout vous dire. Ça n'est pas la plus convaincante en tout cas. Ce qui ne veut pas dire que Léonie soit tout à fait blanche dans cette histoire de rapprochement franco-allemand et de liens très suivis avec les Henkel. En revanche, ce qui paraît très probable, c'est que pour une raison ou pour une autre, que ce soit jalousie, dépit du renvoi de Paul Violette ou révélation d'un passé honteux, bref, Léonie, qui était volontiers théâtrale, il est très possible que Léonie ait feint le suicide et que ce soit pour protéger sa compagne que Léon Gambetta soit emparé de l'arme et ait été blessé. Son mauvais état de santé et l'incompétence des médecins auront fait le reste. Finalement, dans cette histoire, les vrais assassins de Gambetta, ce sont ces mauvais médecins, ça c'est incontestable.
sur Europe 1 de la valse sentimentale de Tchaïkovski, Franck.
En cet effroyable Saint-Sylvestre 1882, un silence de mort plane déjà autour du lit du grand Gambetta. « Quelle heure ?» murmure-t-il. « Il est 11h30. Plus qu'une demi-heure et nous serons en 1883. » 11h35, 11h40, chaque minute rapproche le mourant de ce nouvel an qui, il en est certain, doit lui être propice. L'année, finie l'année, il est là minuit moins 10. Les derniers mots de Gambetta sont articulés dans un demi-souffle. Léon. Léon, dit-il, c'est ainsi par son nom de famille qu'il appelait tendrement celle qui aura été le grand amour de sa vie. Léon Gambetta meurt à minuit moins 5. Il ne verra jamais 1883. À son chevet prostré, Léonie est anéantie. Elle ne peut même pas rester au jardin. Elle n'a pas eu le temps d'épouser son Léon. Elle n'est toujours que la maîtresse, celle qui va devoir s'effacer maintenant devant toute la famille légitime qui arrive. Elle vivra jusqu'en 1906 et s'éteindra au début de ce XXe siècle après avoir brûlé 2400 lettres que lui avait amoureusement adressées Gambetta. Dans la maison abandonnée par Léonie, les médecins se montrent aussi efficaces dans l'embaumement du corps qu'ils ont été inefficaces dans les soins qu'ils lui prodiguaient. On emporte le cerveau du grand homme chez le pharmacien pour être pesé. Vous savez qu'à l'époque, on croyait que le poids du cerveau était un gage de valeur et d'intelligence. 1200 grammes. Fort bien. Chacun des amis de Gambetta veut sa relique. Paul Bert emportera le cœur enveloppé dans un journal. Fiesal, dit-on, la tête entière. Le reste, est tant bien que mal déposé dans le cercueil. Ainsi disparaît de la surface de la terre celui qui, aux pires heures de l'effondrement national en 1870 et en 1871, avait su si bien incarner le souffle de la France et son esprit de résistance. Eh bien, dans un instant, nous allons recevoir Jean Garrigue, qui va nous parler non plus de la mort de Gambetta, mais de sa vie. Et vous allez voir que ce personnage mérite absolument les nombreuses places qui lui sont consacrées partout dans le pays.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Pour parler de Léon Gambetta, nous vous retrouvons Franck avec votre invité sur Europe 1, Jean Garrigue, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans et président du comité d'histoire parlementaire et politique.
Une histoire parlementaire et politique qui, c'est dommage, n'a pas vraiment la cote. Et c'est tellement passionnant de se replonger dans les débats, dans les travaux des commissions. C'est une histoire fourmillante et dans laquelle on fait constamment des découvertes. Merci Jean Garrigue d'être des nôtres.
Je vous en prie.
Nous venons de voir Léon Gambetta rendre son dernier souffle dans cette suspension entre l'année 1882 et 1883. Les obsèques de Gambetta ont été un grand deuil national.
Deuil national, obsèques nationales. C'est quand même, Gambetta, c'est vraiment l'incarnation de la République. Pour les Français de 1880, c'est l'homme qui personnifie le plus la République. C'est une idole pour beaucoup. J'ai retrouvé un certain nombre de lettres qui lui ont été envoyées et qui témoignent d'une admiration presque sans borne et presque de l'ordre de la mystique, du religieux.
Des centaines de milliers de personnes à ses
obsèques. Des milliers de couronnes, des défilés, en veux-tu, en voilà. Beaucoup d'actes patriotiques, parce que c'est une icône patriotique, Gambetta. Des peintres qui ont immortalisé la scène, des images d'Épinal sur les obsèques de Gambetta. Le Palais Bourbon, dont il était l'une des icônes, il a été président de l'Assemblée, enfin de la Chambre des députés, ce qui s'appelait à l'époque la Chambre des députés, avec crêpé de noir. Enfin, c'était vraiment une fête grandiose, une fête républicaine, évidemment, qui commémorait l'action d'un homme illustre.
Il était bien jeune pour mourir et avait encore de grandes réalisations devant lui.
Il était bien jeune pour mourir et même lorsqu'il a été contraint à démissionner en janvier 1882, à la suite à peu près deux mois de gouvernement, c'est une histoire très, très compliquée. Ça devait être un très grand ministère et ça a été au fond un ministère par défaut.
C'est tout à fait de saison, ça devait être un gouvernement d'union nationale.
Exactement.
Et puis finalement, il a eu des ministres qui étaient un peu
des seconds couteaux.
Oui, c'est ça.
En tout cas, des jeunes qui allaient devenir.
C'était la nouvelle génération qui manquait peut-être un peu de bouteille, surtout dans un régime parlementaire. parlementaire où il faut que le gouvernement tienne la toile, si je puis me permettre, face aux députés.
Et c'est précisément ce que voulait Gambetta. Et c'est pour ça qu'on l'a fait tomber. C'est parce qu'il voulait... Il était très moderne. Il voulait véritablement renforcer le pouvoir exécutif. Il voulait que le... C'était presque une anticipation de la Ve République, pourrait-on dire, même s'il était très fidèle au Parlement qu'il avait présidé. Il voulait quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a chuté.
Il aura été le vrai fondateur, le père fondateur de la Troisième République qui a mis tant de temps à s'installer. Nous allons revenir sur tout ça, bien entendu, et sur les campagnes très, très héroïques de ce commis voyageur de la République, comme on l'appelait. Nous allons raconter en quoi on peut dire que Gambetta a donné aux Français une envie de République. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur le personnage lui-même. Il était un fils d'immigré déjà. Son père était un petit épicier qui avait immigré à Cahors. Ils sont italiens, les Gambetta.
Exactement.
Sûr.
Plutôt son grand-père.
Son grand-père,
fait.
Oui.
Ce sont des Italiens. Il est très fidèle à ses origines. Ça s'appelait le Bazar Génois à Cahors, petite ville de Cahors. Une sorte de self-made man quand même, parce que même si son père avait déjà amassé une petite fortune, un honnête commerçant, il a quand même, grâce à des études d'ailleurs un peu tourmentées, mais grâce à son brio, parce que c'est un type très très intelligent, il est parvenu à devenir avocat et il a fait des études extrêmement brillantes. Il s'est tout de suite distingué dans la lutte contre le Second Empire.
Il ne faisait en rien partie de l'establishment. Il a fallu tout de même si effectivement, sur un plan tout à fait matériel, il ne manquait de rien, il lui a quand même fallu conquérir cette place au sommet du pays.
Exactement.
Alors, c'était quand même la carrière du barreau était quand même très indiquée à l'époque. Un grand nombre d'hommes politiques étaient eux-mêmes des avocats. Une proportion importante des députés et des sénateurs.
La plupart des pères fondateurs de la Troisième République sont des avocats ou des journalistes. Au fond, lui, il est les deux, puisque très vite, il va créer son propre journal.
Des avocats, des journalistes, francs-maçons aussi.
Francs-maçons, il l'est. Il l'est d'ailleurs, sans y être très attaché. Au moment de sa mort, on parlera d'ailleurs d'un complot maçonnique très compliqué. Ça fait partie de toutes les hypothèses farfelues.
On a compris que cette mort s'était passée dans des conditions un peu sombres. Et donc, on a beaucoup brodé, on a beaucoup imaginé de choses. Il est non seulement avocat, mais vous avez tout de suite dit qu'il s'est beaucoup battu contre le régime de Napoléon III. Oui. Il est l'avocat de tous ceux qui, de près ou de loin, flirtent avec l'idée républicaine.
Exactement. C'est comme ça qu'il a construit d'ailleurs sa notoriété. C'est comme ça qu'il est devenu populaire avant même la fin du Second Empire. Il y a un grand procès en 1868.
On est en plein Empire libéral, hein, quand même. C'est un procès qui n'aurait peut-être pas pu avoir lieu dans les mêmes conditions 10 ans plus tôt. Oui.
tout à fait. Il a émergé, il a commencé à faire de la politique au début des années 60, justement au début de l'Empire libéral. Et donc là, il se distingue comme un grand avocat reconnu par tous les républicains. Et puis arrive la guerre. Et c'est là que véritablement, il prend sa dimension de héros patriotique.
Les révolutions et les guerres révèlent les grands caractères, les personnages d'exception. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Gambetta, puisque au moment de l'effondrement de 1870, il est parmi ceux qui vont tenir bon.
Ah oui. Oui, ça c'est incontestable, c'est l'incarnation de la résistance patriotique. Il y a cet épisode fameux, au mois d'octobre 1870, où il part de Paris en ballon, en survolant les lignes prussiennes.
Pour les Français jusqu'à la fin, Gambetta, ça restera celui qui s'est sauvé en ballon.
Exactement.
Hein,
c'est vraiment
la barbe scène, des Prussiens.
Voilà, c'est la scène mythologique. Et donc il arrive à Tours et là il organise ce qu'on appelle la délégation du gouvernement. Il est quand même au départ ministre de l'Intérieur. Il cumule et devient ministre de la Guerre. Ce serait notre ministre de la Défense. Et là, il réunit les énergies, en fait. Il stimule les énergies.
Le gouvernement, à l'époque, est encore dans une position de résistance. On essaie d'organiser cette fameuse armée de la Loire, dont je disais un mot tout à l'heure. Et Gambetta, de ce point de vue, est une ardeur.
C'est une ardeur. Plus qu'un organisateur. La droite, notamment, lui reprochera d'avoir été un peu brouillon et finalement de manquer de professionnalisme. Il a quand même permis, quand même, pendant plusieurs mois, de soutenir la guerre.
Il avait un sens politique plus qu'affermi, un sens militaire plus brouillon, sans doute. Oui.
Plus douteux. Et c'est ce qui va, pendant de très longues années, vraiment, ce sera la casserole de sa carrière.
Mais ce qui est assez étonnant, j'en ai dit un mot tout à l'heure à propos de Rochefort d'un côté et de Daudet de l'autre, c'est qu'il était haï aussi aussi bien par l'extrême droite, enfin l'extrême, par la droite dure que par la gauche dure, si je puis dire. C'était, il était considéré comme trop à droite par les gens de gauche et trop à gauche par les gens de droite. C'était un républicain opportuniste, comme on dira.
Voilà, là, ce sont les radicaux, c'est-à-dire ce qui est l'extrême gauche de l'époque, les gens comme Clémenceau, qui le taxent d'opportunisme parce que pour mettre en place la République, il a fallu négocier avec les monarchistes, notamment avec les plus modérés des monarchistes. Il a pris cette habitude d'ailleurs dès le Second Empire. Et cette négociation est apparue comme un opportunisme. C'est quand même grâce à cette négociation-là que les institutions de la Troisième République ont pu se mettre en place en 1875.
Alors justement, comment, dans cette période extrêmement troublée entre 1871 et 1875, et puis après, dans les premières années du régime institué, comment Gambetta a-t-il mis en place la République et comment l'a-t-il fait accepté par les Français, notamment par les campagnes? C'était très important, ça, à une époque de suffrage universel, évidemment.
C'est le commis voyageur de la démocratie.
C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et je vous rappelle, pour qu'il n'y ait pas de doute sur la question, qu'il vous reste quelques minutes
que les choses
pour
soient
jouer
claires
à la Hotte de Noël.
Exactement. Et pour tenter de gagner un week-end remise en forme en demi-pension de 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes au grand hôtel 4 étoiles des Flamants Roses, c'est à Canet-en-Roussillon. Pour vous inscrire au tirage au sort, je vous redonne le mot de passe et le prénom Nicolas que vous envoyez par SMS au 739-21, 50 centimes plus coût d'un SMS. Ou bien vous nous appelez au 39-21, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous et le nom du gagnant sera accessible dès demain sur Europe1.fr.
La Hotte de Noël Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Des contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, Franck.
Peut-être un mot, parce que c'est vrai qu'on a, on n'a pas eu l'occasion d'en parler ensemble, Jean Garrigue, de cet amour entre Léon et Léon, si je puis dire.
Oui, c'est un, je crois que leur relation a commencé en 1872. Elle fréquentait assidûment les tribunes de la Chambre des députés, tribunes du Palais Bourbon.
C'était une belle et forte femme,
ouais,
hein, une grande nature.
C'était une belle femme, une femme intelligente qui l'a beaucoup conseillée. Alors, ils ne se voyaient pas beaucoup finalement dans la semaine, quelques heures, mais s'écrivaient tous les jours. Ce qui, pour les historiens, est utile, même s'il en a brûlé beaucoup. Et elle le conseillait, elle le tempérait et aussi elle l'a, comment dirais-je, polissé. C'était une femme de bonne éducation, religieuse, vertueuse. Et lui, qui était un peu un bohème, un brouillon, elle en a fait presque un homme du monde.
Et cet homme du monde, elle n'aura pas pu l'épouser.
Voilà, ça c'est le drame. C'est vrai qu'il a beaucoup de relations féminines, dont j'ai l'impression quand même qu'il se garde un petit peu. Par exemple, Juliette Adam, qui est une veuve qui aimerait avoir pignon sur Gambetta. Et il la laisse un peu à l'écart. Lui dit qu'avec elle, c'est une amitié. C'est une amitié. Il maintient quand même sa préférence pour Léonie. Pour le reste, là, l'historien parfois révèle des lacunes.
Et oui, bien sûr. Et puis, en l'occurrence, ce n'est peut-être pas le plus important sur Gambetta.
Voilà.
Ce qui est très important,
voilà,
c'est que cet homme a institué la République.
Oui.
Parce que la République... Alors évidemment, si l'on devait remonter à la toute première République de 1792, il y a eu des petites républiques en France. Il y a eu 48, parenthèse, qui s'est finie, comme on le sait, par la proclamation d'un empire. Mais la République, elle ne date réellement non pas de 1871, comme on pourrait l'imaginer, parce que l'Assemblée élue, la Chambre élue en février 71 était monarchiste globalement et qu'on n'avait pas pris, on avait bien pris le soin de ne pas qualifier l'État. Vous ne savez pas, on parlait pour ce qui est de tiers du chef de l'exécutif.
Hein,
donc tout ça restait quand même bien vague. Et puis arrive 1874-1875, là le régime s'ancre dans la République, il s'assume comme tel et celui qui va faire accepter cette République aux Français, c'est quand même Léon Gambetta.
Oui, la République est arrivée par hasard. On n'avait pas prévu la chute du Second Empire. l'Empire et Napoléon III restait très populaire en 1870. Il a fallu que Gambetta prenne son bâton de pèlerin à partir de 1871 et fasse.
C'est-à-dire qu'il a sillonné le pays.
Le Tour de France. C'est le Tour de France de Gambetta et qui est un orateur incomparable. Spontané, direct, trouvant toujours des images qui touchent au plus profond du peuple et qui amassent les foules. On n'a pas idée du nombre de gens qui venaient de 10, 20 kilomètres alentour, à pied, à cheval, en voiture, pour écouter l'orateur.
Il faut dire que la presse l'aidait. On est à une époque, c'est l'apogée de la presse française et la presse républicaine est très active, à commencer par son propre journal, en l'occurrence.
Son propre journal, La République française, qui d'ailleurs est une pépinière de jeunes espoirs républicains, et qui diffuse les discours de Gambetta partout en France. Alors c'est relayé d'ailleurs par des journaux de province, etc. Donc on connaît à l'échelle de l'Hexagone ce que dit Gambetta, ses grandes formules, le cléricalisme voilà l'ennemi, il faudra se soumettre ou se démettre. Il trouve des formules comme ça.
Ce sont des formules qui vont rester, bien sûr.
Oui.
Quand il parlait le Grand Conseil des communes de France, c'est lui aussi ça.
Le Grand Conseil des communes de France à propos du Sénat, oui, exactement.
C'est l'ancrage du régime dans le milieu des années 1880 qui va lui donner raison, mais on a envie de dire... à titre posthume.
Il n'aura pas le temps d'en profiter, lui qui a été le principal artisan, avec des hommes comme Jules Ferry et d'autres.
Alors justement, ses relations avec Jules Ferry sont assez ambivalentes.
Ambivalentes, complexes, c'est un peu la même génération, ils arrivent en même temps.
Ils sont concurrents quelque part.
Dans l'opposition.
Pas de même origine, bien sûr.
Au Second Empire, voilà. C'est que d'un côté, vous avez le petit-fils d'épicier qui s'est fait tout seul, Gambetta, et de l'autre, le grand bourgeois des Vosges, à mi-chemin entre protestantisme et catholicisme, bon, c'est
Ferry.
Compliqué. Ferry et des personnalités différentes. Ferry incarne une sensibilité un peu plus modérée que celle de Gambetta, mais ils se retrouvent finalement. Et la correspondance entre les deux montre qu'ils sont quand même assez d'accord. D'ailleurs, tous les deux sont justement appelés opportunistes parce que ce sont des modérés, des pragmatiques. Et grâce à eux, justement, se met en place ce système assez compliqué d'ailleurs, qui est la Troisième République.
Il y en a un qui ne les aime pas, l'un ni l'autre, c'est Clémenceau en l'occurrence.
Ah, ça, Clémenceau ne les aime pas. Et Clémenceau s'arrange pour les faire tomber l'un après l'autre. Il a joué un grand rôle dans la chute de Gambetta en 1882. Ce sera pareil pour Ferry en 1885. Clémenceau, à cette époque, est un jusqu'au-boutiste. Après, il va mettre de l'eau dans son vin. Et dans les années de guerre, il rendra hommage, pendant la Première Guerre mondiale, il rendra un hommage très remarqué à Gambetta, le premier héros patriotique de la République.
Cette popularité de Gambetta, elle va durer à peu près jusqu'à quand ? Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale ?
Oui, tout à fait. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que c'est une personnalité, une figure qui est vraiment ancrée dans le cœur des Français. C'est une personnalité qui est très forte. Je rappelle que en 1920, au moment de la flamme, où on anime la flamme, ou plutôt on crée la flamme du soldat inconnu, le cœur de Gambetta est installé au Panthéon.
Mais alors, c'est curieux, hein, ce côté reliquaire. On a emmené l'un la tête, l'autre le cœur, le troisième le cerveau. Il y a un côté presque, il y a une mythification.
Exactement.
Du personnage, comme on pouvait la connaître dans l'ancienne France avec les personnalités royales ou princières.
C'est une figure d'homme providentiel et comme tel, il suscite une mythologie, il suscite une vénération. Il y aura des pèlerinages aussi à la maison des Jardis où il est mort pendant 30 ans. Les gens viendront se recueillir à cet endroit symbolique, cet endroit ô combien symbolique de la République justement.
Nous allons parler dans un instant des hommes providentiels puisque c'est le sujet de votre prochain ouvrage. Puisque vous parlez de cette maison des Jardis, etc., elle est devenue pendant longtemps une sorte de lieu de pèlerinage, vous le dites, et l'on a nommé beaucoup de places, beaucoup de rues, d'avenues, de boulevards, etc., du nom de Gambetta. Il aura été finalement, bien après sa mort, et même après la Première Guerre mondiale encore, il aura été une sorte d'étendard de la République et des républicains.
De référence républicaine. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois une référence patriotique et une référence politique. C'est-à-dire qu'il est à la fois le héros de la résistance nationale et en même temps, c'est lui qui met en place un système politique qui au fond assoit les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui, la démocratie parlementaire.
J'ai reçu, et c'est une chance, les bonnes feuilles de votre ouvrage « Les hommes providentiels » apparaître au Seuil, sous-titré « Histoire d'une fascination française ». On n'en sortira jamais de ce tropisme.
Souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques mois avec un certain DSK. On avait l'impression qu'il arrivait, là, l'homme providentiel. Zorro arrivait, comme était arrivé Zorro en 2007. D'ailleurs, en 2007, il y avait 3 hommes providentiels, dont une femme. C'était Bonaparte, c'était Sarkozy, Sauvier, Jeanne d'Arc, Ségolène Royal, et De Gaulle, François Bayrou. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera pour 2012, mais on voit bien là, il y a une récurrence d'un phénomène typiquement français.
Très gaulois, finalement.
Très gaulois, et à la fois comme une sorte de nostalgie d'un ancien régime qui avait généré comme ça une figure de rassembleur, d'ascendance justement providentielle, d'ascendance divine, une sorte de messie que l'on retrouve à chaque fois que la France est en crise.
L'histoire d'une fascination française, Les hommes providentiels de Jean Garrigue, c'est apparaître en février,
début février.
Au Seuil. Et c'est un très bel essai assez
Merci.
Profond. Les grands discours parlementaires de la Troisième République de Clémenceau à Léon Blum, avec une préface de Jean-Louis Debré qui à l'époque était président de l'Assemblée nationale, ça c'est chez Armand Collin, vous avez présenté ces textes qui font à Clémenceau la part non pas du tigre mais du lion. Hein. Il est vraiment le héros de l'ouvrage. Et puis je voulais citer de Jean-Philippe Dumas une très jolie biographie, très vivante, un portrait, c'est le terme, publié chez Belin, c'est Gambetta, le commis voyageur de la République. C'est bien ainsi que lui-même se présentait. Merci beaucoup Jean Garrigue. Puisqu'il me reste, c'est très rare ça, mais il me reste 30 secondes, alors je vais en profiter pour vous signaler que la veille de Noël et la veille du 1er de l'an, donc le samedi 24 et le samedi 31 décembre, nous ferons des émissions spéciales à la même heure, c'est-à-dire après le journal de 13h, ça va commencer un petit peu plus tôt, hein, je pense un peu avant 13h15. Et le 24, nous parlerons de Jésus qui s'impose, une veille de Noël. Quant au 31, nous ferons une émission spéciale sur toutes les commémorations qui nous attendent en 2012, du Titanic à Jean-Jacques Rousseau, en passant par l'indépendance de l'Algérie, évidemment. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck. Alors nous sommes déjà dans notre semaine spéciale enfants sur Europe 1. Et si je vous demande, Franck, quel est le lien entre pompier, maîtresse, Spider-Man, vétérinaire, président de la République ?
Eh bien, ce sont des ambitions d'enfant, mais j'ai voulu être tout ça à la fois.
Eh bien,
et vous l'êtes un peu.
Aujourd'hui,
Franck,
quand vous serez grand, vous voudriez être quoi ? Toujours la même chose ?
Je suis très heureux d'être historien, vous savez, ça me plaît beaucoup.
Eh bien, nous avons posé cette question aux enfants. Quand tu seras grand, que voudras-tu faire ? Et ils nous ont répondu, les réponses sont intéressantes. Ce qui est surtout intéressant, et c'est ce que nous allons voir avec les experts, c'est de décrypter ce qu'ils veulent finalement, ou ce qu'ils sont derrière leur désir. Vous pouvez nous appeler au 3921, ça coûte 34 centimes d'euros la minute, ou sur europe1.fr pour vos questions ou pour vos envies à vous.
Reste à imaginer la panoplie de l'historien. Merci beaucoup Elena. À demain Julien.
Merci Franck et à demain sur Europe 1 où il est 14h.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.